Au quotidien, avec Hélène Denis.
Janvier 2026, j'espère que vous êtes en forme. Mesdames et messieurs, auditeurs, auditrices, Hélène Denis qui vous accompagne jusqu'à 11 heures. Au menu aujourd'hui, nous aurons la joie d'accueillir en studio Roxane de la Sablonnière pour sa chronique Psychologie sociale. Aujourd'hui, le sujet abordé par Roxane, l'art, A-R-T, utiliser l'art pour avoir des conversations entourant les changements sociaux dramatiques. Aussi, on salue notre ami Dominique Tremblay au Parasport, qui ne sera pas là aujourd'hui, mais il sera avec nous, il me l'a promis, la semaine prochaine. Mais ils sont fidèles au poste, et je parle d'Yvan Deslauriers et de Monique Kirouac. Ils sont fidèles et au bout du fil. Bonjour à vous deux.
Bonjour Hélène.
Bonjour Hélène.
Yvan, aujourd'hui, vous allez nous suggérer des endroits où patiner au Québec, et aussi, vous allez partager avec notre auditoire une chronique de Rose Aimée Autonne Témorin.
Oui. Pour ce qui est du patinage, ça avait été choisi avant que je sache quelle température qu'elle allait faire en fin de semaine, qui est quand même assez propice au patin, vous devez en convenir,
oui.
Mais il faut s'habiller. Dans l'article de Rose Aimée Autonne Témorin, on va parler de l'entourage, de l'importance de nos proches dans le soutien à nos motivations. D'ailleurs, ça m'amène à vous demander, à vous deux, à Monique et à Hélène, est-ce que vous avez pris des résolutions, vous, autour du premier de l'an?
Non, j'en ai pas prise.
Moi non
okay.
plus.
Non.
Ah. Alors, ma deuxième question tombe à l'eau. Est-ce qu'elles tiennent toujours? Mais
on dirait, Yvan, qu'avec le temps, on comprend qu'on finit jamais par les tenir. Alors, c'est le métier qui rentre. On se dit, ben j'en prendrai pas. On a quand même des intentions, des désirs. On se dit, oui, cette année, je vais essayer de moins, prendre...
De moins ou de plus.
Moins manger, plus boire. Pas plus boire.
De l'eau.
Oui, de l'eau. Merci, Mathieu.
Mais dans l'article, on va parler justement du soutien des proches, c'est quasiment des proches aidants dans ce cas-là, pour maintenir des résolutions. Et un petit truc pour justement maintenir les résolutions, vous allez voir, on va s'en parler.
OK. Je pensais à votre chronique de la semaine dernière où vous parliez de la marche rapide, bien, la marche et le rythme
oui.
et la façon de marcher qui peut influencer
oui.
notre espérance de vie. Et je me disais, si plus on marche vite, plus on a des chances de mourir tard. Est-ce
ouais.
que si on court, ça va être encore mieux?
Pas mieux.
Est-ce qu'on va vivre plus longtemps?
Ça va être aussi bon.
OK, aussi
oh,
bon.
Mon Dieu, vivre plus longtemps, hein, c'est un drôle de concept quand même.
Ouais.
Si on marche ou si on court devant une voiture qui s'en vient sur nous, ça vient de finir là. Mais... C'est tout des
ah
activités.
Oui, c'est vrai.
Malheureusement, ça se peut. Mais c'est tout des activités. En fait, Marie Lalande, qui est aussi ma conjointe.
Et animatrice à Canal M.
Et l'animatrice à Canal M. Dit souvent, quand on va au centre d'exercice sur notre vélo stationnaire, on pourrait être assis dans le sofa aussi. Alors, tout ce qui nous sort de la maison, qui nous fait bouger, c'est tout positif,
oui.
peu importe ce que c'est. Et ça augmente la probabilité, c'est le seul mot important, d'augmenter notre espérance de vie.
Mm-hmm.
Mais tout peut arriver dans le cas.
Oui,
il n'y a rien de garanti. Là.
Absolument. Et ben, j'imagine que ça aide aussi à contrer la déprime saisonnière de bouger, d'aller faire une belle marche, Monique.
Ben tout à fait, Hélène. D'ailleurs, l'article que j'ai retenu, qui a été rédigé par la professeure de l'Université Concordia, Johanna Pozzulo, ben nous donne des conseils justement pour s'assurer d'un certain bien-être durant la saison hivernale. Ben surtout que cette année, on a On est vraiment en déficit de soleil, là. Hein? J'entendais, je pense que c'était Yves Christian ou Ève Christian ou Véronique, là, le matin, qui nous disait qu'on avait eu seulement 32 heures d'ensoleillement depuis le début janvier, ce qui est très peu. Alors, on peut se poser la question, est-ce que cette grisaille influence notre humeur? Et même, est-ce que le lundi de la déprime est un mythe? Alors, vous allez découvrir d'où vient ce concept du lundi de la déprime qui correspond au troisième lundi de janvier.
Alors, c'était le 19, il y a quelques jours, là, lundi.
C'est ça, c'était le troisième, oui. Ben, en tout cas, on y revient tout à l'heure.
Bien oui, c'est toujours d'actualité. On en parle d'une année à l'autre. C'est du marketing, ce Blue Monday, mais enfin, on aura plus de détails en votre compagnie, Monique. On y va avec une chanson tirée d'un album qui est sorti en 2025.
Le temps est mort, je rêve tout croche. Les frustrés laissent la mauvaise journée coller en dessous de nos souliers. Ça roule trop vite pour garder le sens. Les bouches ouvertes et les claques sont fortes toujours. Pressés pour patienter. Mais ça va. Mais ça va. Tu m'attrapes, tu m'embrasses. Toi, vous êtes ma préférée. Ça va. C'est trop parisien, mais ça me fait du bien.
La chanson « Ça va » avec Solane et Patrick Watson.
À la une de la presse, Groenland volte-face à Davos. Après des semaines de menaces, un discours de plus d'une heure en Suisse et une rencontre avec le secrétaire général de l'OTAN. Donald Trump a levé son ultimatum de droits de douane contre 8 pays d'Europe. Il évoque maintenant la conclusion d'un cadre pour une future entente au sujet de l'île Arctique. Ça se passe à Québec. Les conseils de notre équipe pour vos sorties des prochaines semaines dans la vieille capitale. Et il y a d'excellentes suggestions à découvrir dans la presse d'aujourd'hui. À la une du Journal de Montréal, le pont Jacques-Cartier a eu chaud. La circulation a été rétablie en fin de journée hier dans les deux directions après un incendie qui a causé des maux de tête aux automobilistes. Les autorités ont ordonné la fermeture complète du pont vers 6 heures hier matin. On craignait que le bâtiment devienne un immense radiateur et que cette chaleur puisse avoir un impact sur la structure du pont. C'est ce qu'a souligné la porte-parole de la Société des ponts Jacques-Cartier et Champlain, Nathalie Lessard. L'origine de l'incendie reste indéterminée, selon la police de Montréal qui a repris l'enquête. Toutes les hypothèses vont être vérifiées. Depuis 2023, la Ville a réalisé 12 inspections dans la vieille usine placardée, la dernière remontant au 22 décembre dernier. Un sixième film, Les Boys, peut-être que vous allez vous réjouir en apprenant cette nouvelle. Et ce film sera présenté, en tout cas si tout va bien, dans le temps des fêtes, édition 2027. À la une du Devoir, l'édifice de l'ancienne savonnerie Barcelou, détruit par les flammes mercredi. C'est ce qui a occasionné donc la fermeture dans les deux directions du pont Jacques-Cartier. La savonnerie qui a façonné Centre-Sud, Philippe Renaud raconte cette histoire passionnante. L'incendie qui s'est déclaré tard en soirée mardi sur l'avenue de Lorimier et qui a forcé la fermeture du pont Jacques-Cartier jusqu'en après-midi mercredi a lourdement endommagé ce que des experts considèrent comme l'un des derniers vestiges de l'histoire industrielle du faubourg Amelas. L'ancienne savonnerie Barcelou a à ce point façonné l'image du quartier que ses propriétaires ont obligé les ingénieurs du pont à redessiner sa voie d'accès. C'était le symbole de l'affirmation du secteur des faubourgs et l'incarnation de tout l'esprit du Centre-Sud, écrivaient les propriétaires de l'édifice, la Société de développement Berton, dans leur plan de revalorisation, dis-je bien. Ironie du sort, le spectaculaire incendie ayant forcé la fermeture temporaire du pont Jacques-Cartier est le dernier affront fait à ce lien interrive, car c'est en raison de l'entêtement des propriétaires de cette ancienne savonnerie, la famille Barcelou, face à la Société des ponts qui désirait les exproprier, que les concepteurs du pont ont dû dessiner la courbe Craig, surnommée courbe de la mort, en raison des nombreux accidents automobiles qu'on y a recensés. Autre titre à la une du Devoir de ce 22 janvier 2026, Trump exclut la force, mais dit avoir un cadre d'entente sur le Groenland en annonçant cette entente avec l'OTAN pour toute la région arctique. Il recule sur ses menaces tarifaires envers 8 pays européens. Il y a plusieurs caricatures qui sont assez féroces à l'endroit de Donald Trump, notamment dans Le Devoir, mais aussi dans le Journal de Montréal. Dans le Journal de Montréal, c'est plus Mark Carney là, qu'on voit en forme de menu, de volaille. Oui, parce que hier, il parlait du fait que c'était préférable d'être à la table plutôt d'être le menu. 75 millions aux médecins pour inscrire des patients à un guichet. Dans l'entente qu'il a conclue avec les médecins de famille en décembre, le gouvernement Legault a inclus une prime de 75 millions, non pas pour la prise en charge de 500 000 Québécois, mais bien pour leur inscription à un guichet d'accès à constater le devoir. Il en est question en long et en large dans le devoir de cette bonification de la rémunération. En entrevue au Devoir hier, mercredi, la nouvelle ministre de la Santé, des Services sociaux et des aînés, Sonia Bélanger, a déclaré qu'elle aimerait que l'accès à un médecin soit plus direct.
Round. I
Because, une chanson des Beatles.
Toujours beau, cette chanson que nous a suggérée, sans le savoir vraiment, notre collègue Jean-Sébastien Laliberté. Alors, c'est à vous, très cher Yvan Deslauriers. Vous allez donc nous parler aujourd'hui de quoi? Ben, de patinage, mais avant, c'est une chronique qui parle de résolution qu'on tient ou qu'on ne tient pas. En général, on ne les tient pas.
Oui, c'est tout à fait vrai. Et c'est un article qui fait... souvent, les articles de Rose-Aimée Autonne-Témorin, on peut les lire, on peut voir son petit sourire dans le coin qui rit un petit peu de nous et d'elle sur les sujets qu'elle choisit. Celui-là en particulier sur les résolutions. En fait, elle parle de la motivation des proches et des chances de succès. Et en lisant ça, c'est peut-être une autre façon de voir les proches aidants pour soutenir quelqu'un qui n'est pas du tout malade et qui ne veut pas l'aide, justement. Alors, c'est un article de Rose-Aimée Autonne-Témorin qui a été publié dans la presse le 14 janvier. Alors, elle nous dit, puis je vais adapter, parce qu'on est rendu le 22 janvier. Il y a 3 semaines, vous avez probablement pris une résolution. En tout cas, certains d'entre nous en ont pris. Comment ça se passe depuis? Mal? Vous pouvez blâmer votre entourage. Et elle dit, de rien. Bien, dites merci à vos proches. Vous pouvez aussi vous donner une tape dans le dos, bien entendu. Si vous adoptez une nouvelle habitude, c'est grâce à vos efforts. En partie. Même si c'est plate à admettre, on atteint rarement un objectif seul. Selon Richard Kustner, qui est le directeur du McGill Human Motivation Lab, ou si je traduis librement, le laboratoire de motivation humaine McGill, il dit « Souvent, les buts personnels ne sont pas personnels. » Parce qu'il constate qu'on opte régulièrement pour des objectifs qui nous intéressent peu ou qui ne sont pas alignés avec nos valeurs. On essaie de faire quelque chose parce que les autres nous disent que c'est ce qu'on devrait faire. Sans oublier que le niveau de soutien de nos proches va influencer l'atteinte de nos buts, pourtant dit, en guillemets, personnels. Des recherches expérimentales démontrent que lorsqu'une personne pense à sa mère, à son père ou à un ami en accomplissant une tâche, elle travaillera plus ou moins fort en fonction de l'individu imaginé. Selon lui, il y a des liens entre la représentation mentale des personnes dans notre vie et les choses qu'on tente d'accomplir. Et là, Rose-Aimée Autonne-Témorin rajoute qu'est-ce que la petite voix dans votre tête murmure si vous pensez à votre mère en faisant du sport? Drôle d'exercice, je le sais. Alors, Noémie Carbonneau, elle, est professeure au département de psychologie de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Et elle est titulaire de la chaire de recherche du Canada sur les déterminants psychologiques et sociaux des comportements alimentaires. Selon elle, la qualité du soutien de nos proches est l'un des meilleurs prédicteurs de la motivation saine et durable. Sauf que les manières d'encourager autrui ne se valent pas toutes. Selon le Dr Kössner, la plupart d'entre nous a une approche directive, c'est-à-dire qu'on tente de résoudre des problèmes. On donne notre avis, on conseille. On veut aider, mais en offrant nos recommandations non sollicitées, on n'encourage pas tellement la personne aimée. On ne lui nuit pas non plus, remarquez. L'effet est dit neutre. Sauf dans le cas d'un partenaire amoureux qui encourage activement l'autre à perdre du poids. Ici, on va démotiver l'individu et c'est documenté. Et comme la perte de poids figure dans le top 3 des résolutions prises par les Américains, avec arrêter de fumer et faire plus d'exercice, ça vaut la peine de le préciser. Ce qui favorise l'atteinte d'un objectif est plutôt l'empathie. Selon Noémie Carbonneau, elle dit « Le soutien à l'autonomie est extrêmement aidant pour la poursuite de buts. On se met à la place de l'autre plutôt que d'imposer sa vision ou sa façon de faire. Ça mène à une motivation plus saine, davantage de persévérance, plus de bien-être dans le processus et même dans les relations. Il faut donc laisser tomber les « tu devrais », même s'ils partent souvent d'une bonne intention. Le Dr Kössner résume simplement la chose. Il s'agit d'écouter, puis de poser des questions du genre « Comment as-tu eu cette idée? Tu penses à quoi comme plan? Comment ça se passe jusqu'à présent? Qu'est-ce que je peux faire pour te donner un coup de main? » En théorie, c'est facile. En pratique, ça l'est moins. Les buts touchent souvent les habitudes de vie et les comportements. Et ces comportements-là peuvent jouer un rôle dans notre relation, selon Mme Carbonneau. Par exemple, si on prend quelques verres en amoureux chaque samedi pour se détendre et que la personne qui partage notre vie nous dit qu'il veut ou qu'elle veut moins boire, ça peut être très déstabilisant. L'activité a une fonction pour nous. Il faut démêler ce qui nous appartient et ce qui appartient à l'autre. Si on souhaite bouger davantage et que notre partenaire nous encourage à rattraper le dernier épisode de Stat, qui était très bon d'ailleurs, fin de ma parenthèse.
Je l'ai pas vu encore.
Ah, OK. Mais c'est du bon temps. Coller sur le sofa plutôt que d'aller marcher. Ce n'est pas motivant non plus. Puis au-delà de ce qu'on dit, il y a ce qu'on fait. Selon Mme Carbonneau, c'est fondamental d'avoir un conjoint qui croit en toi. Mais avoir un conjoint qui va chercher les enfants pendant que tu fais ta longue course, ça, c'est vraiment aidant. Pardon. Puis l'aide, on va la prendre partout où on le peut. Pourquoi? Parce que c'est incroyablement difficile de concrétiser une résolution. En général, il faut essayer entre 6 et 8 fois avant d'honorer la promesse qu'on s'est faite. Le Dr Kössner a personnellement adopté un truc pour augmenter ses chances de réussite. Comme le janvier québécois est pénible, on le sait, et qu'il nous demande déjà beaucoup d'énergie, le professeur de l'Université McGill reprend ses résolutions le 1er juillet. Depuis qu'il relance ses objectifs à la Fête du Canada, il les atteint beaucoup plus souvent. Et comme le Dr Kössner reconnaît qu'il y a des tensions politiques au sein de la province, il souligne que le 24 juin est aussi bon est aussi un bon moment pour se redonner un élan. C'est un choix personnel si une telle chose existe. Alors, c'était des réflexions que nous apporte Rose-Aimée Autonne-Témorin sur les résolutions, mais surtout sur les façons d'atteindre les buts qu'on se donnait à travers les résolutions. Et le dernier petit truc, celui de se redonner la résolution après 6 mois, je l'ai trouvé vraiment intéressante. Alors, si on a l'occasion, on s'en reparle au début de l'été.
Perfect. Magnifique musique du duo de guitaristes suisso-équatorien Hermanos Gutiérrez. Si cette musique vous plaît et que vous aimez l'Orchestre symphonique de Montréal, Hermanos Gutiérrez sera en concert avec l'OSM les 6 et 7 mai 2026 prochains. Ça pourrait être une de mes résolutions de voir un de leurs concerts. Alors, Yvan, on vous a pas demandé, vous, votre résolution pour 2026, mais on y reviendra au moment des brèves. Restez avec nous.
Vous écoutez Au quotidien avec Hélène Denis.
Voici les clés pour le cas où tu changerais d'avis. À ta santé, à tes amours, à ta folie. Je vais tenir mes rêves au chaud et le champagne au froid. Car je t'aime. Et n'oublie pas les 18 mois de Nicolas. Voici les clés, ne les perds pas sur le pont des soupirs. Elles sont en or, on ne sait jamais, ça peut servir. Ne t'en fais pas, j'ai ce qu'il faut, on n'est jamais perdant. Quand on aime, j'ai mes bouquins et ton petit chien, eux sont contents. Voici les clés de ton bonheur, il n'attend plus que toi. Appelle-moi si par bonheur elle n'ouvrait pas. Nanana, 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 nanana.
tu sais toujours où me trouver. Moi je ne bouge pas, moi je t'aime. Et n'oublie pas la communion de Nicolas. Pas de chance, j'allais t'emmener en Italie en voyage d'amour. Pas de chance, moi je t'aime aussi, et depuis bien plus longtemps que lui. Voici les clés de ton bonheur, il n'attend plus que toi. Nanana, 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 nanana. Tu sais toujours où me trouver, moi je ne bouge pas, moi je t'aime. Et n'oublie pas l'anniversaire de Nicolas. Voici les clés pour le cas où tu changerais d'avis. À ta santé, à tes amours, à ta folie. Nanana, 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 nanana. Je vais tenir mes rêves au chaud et le champagne au froid, car je t'aime. Et n'oublie pas l'anniversaire de Nicolas. Voici les clés, ne les perds pas sur le pont des soupirs. Elles sont en or, on ne sait jamais, ça peut servir. Nanana, 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 ne t'en fais pas, j'ai ce qu'il faut, on n'est jamais perdant.
Une chanson qui a 50 ans, qui a été créée en 1976. Ben, pas créée, mais qui est sortie en 1976. La déprime saisonnière, le Blue Monday, Monique Kirouac, racontez-nous.
Ah oui. Alors, en 2005, Hélène, le psychologue Cliff Arnold a créé le terme Blue Monday, lundi de la déprime, et ce, dans le cadre d'une campagne publicitaire d'une agence de voyage britannique qui visait à encourager les gens à partir en vacances en hiver.
Marketing. Alors, marketing. C'est en quelle année, ça?
2005.
Ah, ça fait pas si longtemps.
Ben, 20 ans.
Ouais. 21 ans, même.
Oui. Alors, à l'aide d'une formule pseudo-scientifique, il a désigné le troisième lundi de janvier comme le jour le plus déprimant de l'année, marqué par la tristesse, le manque d'énergie et l'isolement. D'ailleurs, au Québec, il y a Christian Bégin qui organise maintenant depuis, je pense, 6 ans, un événement annuel qui s'appelle la Nuit de la déprime. Et ça a lieu ce lundi prochain, oui, Hélène, le 21 oui. janvier, au Théâtre Saint-Denis. Donc, si vous souhaitez vous dérider un peu, ben, c'est peut-être un événement auquel participer. Alors, bien que le concept du lundi de la déprime ait été réfuté, les émotions négatives associées à la saison froide sont par ailleurs bien réelles. Le trouble affectif saisonnier, qu'on appellera le TAS dans le reste de l'article, c'est une forme de dépression reconnue liée aux variations saisonnières. Ces symptômes comprennent de la fatigue, de l'irritabilité, des changements d'appétit, une perte d'intérêt pour les activités agréables et un sentiment de désespoir. Selon la Société canadienne de psychologie, il y aurait environ 15% des Canadiens qui déclarent ressentir des symptômes de ce trouble. On pense que le TAS pourrait être lié à un manque d'exposition au soleil, ce qui perturbe notre horloge interne ou rythme circadien, ce rythme qui régule les processus biologiques comme le sommeil et la production d'hormones. Si on ne peut pas contrôler la lumière du soleil, ben, il existe toutefois plusieurs stratégies scientifiquement prouvées pour mieux traverser l'hiver. Par exemple, en aménageant un coin lecture confortable où on peut s'installer avec une bonne couverture, peut-être un chocolat chaud ou tout autre breuvage qui vous réjouit, et un livre, On crée ainsi un espace dédié au bien-être et à la détente. Ça permet également de favoriser la pleine conscience qui consiste à porter son attention sur l'instant présent et à accepter ses pensées et ses sentiments sans les juger. Notre professeur nous suggère 4 moyens, stratégies pour mieux faire face à l'hiver. La première, c'est d'adapter son état d'esprit et ses attentes. Elle nous cite Carrie Leibovitz, qui est un psychologue et auteur, qui a écrit « How to Winter, Harness Your Mindset to Thrive on Cold, Dark Days ». Je traduirai le tout par « Comment vivre l'hiver, maîtriser votre état d'esprit pour bien se porter les jours froids et sombres ». C'est ce qu'on va vivre ce week-end, je pense, Hélène. Alors, la clé pour mieux traverser l'hiver consiste à faire du recadrage, c'est-à-dire modifier sa perspective afin de trouver une interprétation plus positive, constructive ou libératrice de la situation. Dans les cultures où l'on apprécie l'hiver, on s'y prépare et on le considère comme important. Le fait d'attendre l'hiver avec impatience peut améliorer le moral. Bon, faut se mettre dans cet état d'esprit, attendre l'hiver, espérer l'hiver. Essayez de remplacer donc les propos qui décrivent l'hiver comme quelque chose qu'on doit redouter ou endurer par une image plus positive. La beauté d'un paysage où on voit des arbres couverts de neige, c'est très beau. Ainsi, l'hiver peut être l'occasion de se reposer et de se ressourcer. Adopter un état d'esprit positif permet donc d'augmenter son bien-être. Deuxième stratégie, considérer les bienfaits des activités extérieures. Ça va faire plaisir à Yvan, ça. Alors, le fait de sortir pour remonter le moral et donner de l'énergie, ça peut faire ça, le fait de sortir. Même si les heures d'ensoleillement sont plus courtes l'hiver, il est important d'en profiter. Prenez le temps de sortir en fin de matinée ou en début d'après-midi, lorsque la lumière naturelle est à son maximum. Les conditions météorologiques hivernales peuvent rendre les activités de plein air peu attrayantes. Le froid et la glace peuvent par ailleurs aussi être dangereux pour la santé. Ainsi, le froid peut accroître les risques d'accidents cardiovasculaires en contractant les vaisseaux sanguins et en augmentant la tension artérielle. Donc, pour profiter de l'extérieur en toute sécurité, il faut investir dans des vêtements adaptés à la température. Sans oublier, bien sûr, de bonnes bottes qui peut-être comporteront des crampons, ou en tout cas, il faut avoir des crampons en cas d'apparition de la glace. C'est essentiel pour ne pas avoir de chute qui nous cause de forts grands problèmes de santé, comme des cassures ou des commotions cérébrales. Alors, partant très froid, pratiquez une activité légère. Donc, ce week-end, on pourra aller marcher. Et peut-être en limitant la durée de nos sorties à environ 15 minutes, si on n'a pas, l'événement approprié pour nous protéger de ce grand froid. Troisième stratégie, ralentir grâce au hug.
Le hug, concept qui vient de la Scandinavie, en tout cas d'un pays d'Europe du Nord.
Oui, c'est ça. Ce terme est d'origine danoise et norvégienne, Hélène, et il date du 19e siècle et désigne le fait de vivre avec lenteur, tout en tissant des liens avec les personnes qui nous sont chères. Le hug évoque l'idée d'un environnement agréable, avec des bougies, un feu de foyer si on a un foyer, ou tout élément qui alimente la positivité. Quand vous êtes à l'intérieur, il est préférable de s'installer près d'une fenêtre pour travailler ou lire. Pensez également à augmenter la luminosité de l'éclairage. On pourra opter pour des ampoules lumière du jour et ajouter de l'éclairage s'il y a lieu. Cela peut accroître la production de sérotonine, cette hormone qui améliore l'humeur et régule le rythme circadien et, par le fait même, augmenter la qualité du sommeil, l'énergie et la concentration. Les activités de type hug tels que bon, le coloriage, les jeux de société, peut-être le tricot, le crochet, enfin toute activité qui vous fait plaisir, peuvent favoriser le bien-être. Savourer un repas simple en bonne compagnie ou passer un moment seul dans la nature sont également des moyens de profiter pleinement de l'hiver. Quatrième stratégie, suivre les saisons et prendre soin de soi. Alors, rappelons-nous que l'hiver est naturellement une période de ralentissement, de repos et de rétablissement. Il faut l'accepter. Bon, on voit les ours hein, qui hibernent, les bourdons qui s'enfoncent sous la terre pour survivre. Donc, pour nous, c'est le moment idéal pour nous préparer aux saisons plus actives qui suivent l'hiver. Pour profiter du rythme plus lent de la saison, évitons de surcharger notre emploi du temps. Adoptons nos habitudes de sommeil à nos besoins personnels. Profitons de soirées calmes et couchons-nous tôt. Acceptons le fait que notre niveau d'énergie soit plus bas en hiver et que cette saison nous offre l'occasion de ralentir sans culpabiliser. En passant plus de temps à l'intérieur en hiver, vous pourrez vous replonger dans les loisirs et les activités qui vous ont procuré du plaisir par le passé. Peut-être faire des casse-têtes, ça permet de s'éloigner des écrans et réduire le stress. La lecture de bons livres offre une occasion de s'évader, de se déconnecter de ses soucis. Les activités créatives, comme cuisiner, et on en a nommé d'autres, là, les casse-têtes, dessiner,
écrire,
bien ouais. sûr, peuvent apporter un sentiment d'utilité. Pratiquer des activités agréables et enrichissantes est le meilleur moyen d'améliorer son sentiment de bien-être. Si vous vous demandez quel livre choisir, ben pourquoi pas consulter le site Les Libraires. C'est une très belle source d'inspiration. Surtout en ce début d'année, on nous cite les livres les plus populaires de 2025 et ceux qui seront à notre portée en 2026.
On peut même mettre OK, excusez. À chaque fois que je parle, j'ai l'impression que je parle par-dessus vous. Je suis désolée. Est-ce que vous m'entendez quand je parle, Monique?
Oui, mais des fois, j'ai pas fini de parler.
Ah, OK. C'est comme ça que ça fonctionne. D'accord. J'essaie de trouver une respiration pour m'intégrer. Mais continuez. Avez-vous terminé, là?
Oui, j'ai terminé.
OK, je suis désolée de vous avoir interrompu.
Non,
mais c'est parce que vous parliez de Les Libraires en ligne, mais oui. La publication existe en copie physique. Et moi, j'adore aller dans une librairie. Je sais pas si c'est partout, là, mais dans les librairies indépendantes, on peut trouver cette publication, Les Libraires.
Vous avez tout à fait raison, oui.
Grand format, belle page couverture, belle jaquette et des entrevues aussi très intéressantes. Et on ne sait plus où donner de la tête là, parce qu'il y a tellement de choix. Mais c'est une belle lecture en soi, c'est ce que je voulais dire.
Oui, tout à fait. Puis de bonnes suggestions, n'est-ce pas?
Oui. Antidéprime saisonnière. Merci, Monique.
Comme une âme dans un pantin. Voiture dans un ravin, je suis là où ça ne va pas. Comme un fantôme dans le miroir, comme une ombre dans ton histoire, je n'habite pas chez moi. C'est un revenant ici où rien n'a vraiment. Je me rends compte enfin à quel point moi j'ai changé. J'en ai assez de faux semblants, de la honte et des grands blancs qui ne me servent plus à rien. Comme une roue sur le tarmac, l'amour qui part à l'entracte, je ne te laisse pas le choix. Comme un doute dans le certain, et une tache sur le dessin, je ne m'effacerai pas. C'est un revenant ici.
Je n'habite pas chez moi, une chanson de St. James.
Et avec Yvan Deslauriers, on va aller patiner. Vous allez nous inviter à chausser nos patins, Yvan, et nous suggérer des patinoires de Montréal et d'ailleurs. Mais avant, avez-vous pris une ou des résolutions pour 2026?
Ben oui, j'en ai pris une.
Laquelle?
C'est une résolution qu'en fait, c'est plus un objectif qu'une résolution que j'avais prise en début 2025. Puis comme il m'est arrivé un petit problème de santé, j'ai été obligé de le reporter. Mais je veux monter à pied le mont Mégantic. Au départ, c'est le mont Washington, mais comme on a des petits problèmes avec les États-Unis, c'est ainsi. Alors, le mont Mégantic, j'ai jamais monté. Alors, mon objectif de cette année, c'est de le monter. Ça va être à la fin du mois d'octobre parce que j'ai des gros contrats de travail avec le recensement du Canada puis les élections provinciales. Donc, je vais être plus libre à la fin octobre. Mais ce qui est intéressant pour moi, c'est que ça m'oblige à me donner des activités physiques pour me préparer à ça pendant toute l'année jusqu'au mois d'octobre, faire attention à mon alimentation. Alors, c'est un objectif qui a plusieurs conséquences intéressantes pour moi.
Absolument. C'est une ingénieuse résolution. Et on va vous suivre là-dedans. On ne dira pas, tu devrais faire ça, mais on va être empathique. Absolument. Alors, allez-y donc avec les endroits où aller patiner.
Oui, il semble qu'il va faire vraiment fret en fin de semaine, genre moins 25 samedi et dimanche, d'après la météo.
Même la semaine prochaine.
Même un bout de temps de la semaine prochaine. Alors, moi, j'irai pas patiner pendant ces jours-là, mais la glace, ça va être vraiment bonne après ça, j'imagine. Alors, des idées pour aller patiner à Montréal puis à l'extérieur de Montréal. Si vous êtes membre de l'Association des sports pour aveugles du Montréal métropolitain, il y a des cours qui sont adaptés pour vous si vous voulez apprendre à patiner. Alors, vous communiquez avec cette association-là. Je m'appuie sur des suggestions qui ont été faites dans la presse du 18 janvier au sujet du patinage. Il y a le lac des Castors à Montréal. Le lac des Castors, c'est gratuit. Puis on peut y louer de l'équipement puis faire aiguiser ses patins. Puis après avoir patiné, c'est toujours ça le but, moi, quand je fais de l'exercice, c'est qu'est-ce qui arrive tout de suite après. Alors après avoir patiné, on peut aussi déguster un chocolat chaud. Il y a plusieurs endroits qui en vendent non loin de la patinoire. Alors moi, ça fait un bout de temps que je peux aller au lac des Castors. Il me semble qu'il y en a un bout du lac des Castors qui est réfrigéré d'ailleurs, que j'avais lu il y a longtemps. Il y a la patinoire de l'Esplanade Tranquille à Montréal, en plein centre-ville. En soirée, il y a des jeux de lumière qui illuminent la glace, ce qui rend l'expérience encore plus agréable. C'est une surface qui a environ 1500 mètres carrés, qui pourrait accueillir 400 patineurs. Mais s'il y a 400 patineurs dans cet endroit-là en même temps, vous n'avez même pas besoin de savoir patiner, vous accotez sur quelqu'un qui... Ça va glisser tout ça.
Je trouve ça exagéré, 400. J'y étais hier. En fait, j'étais dans un restaurant qui avait une vue sur cette patinoire.
Oui.
Et c'est vraiment agréable, non seulement de patiner, mais de regarder les patineurs. Et il n'y avait pas 400 personnes, mais il y avait pas mal de monde. C'est vraiment populaire comme endroit.
Oui, c'est un très, très bel endroit. Puis c'est très accessible avec le métro. Alors, c'est à y penser. Dans votre coin, Hélène, pas dans votre coin chez vous, mais dans votre coin de travail,
oui.
Juste à côté, le parc Maisonneuve,
parc La Fontaine.
Parc La Fontaine, c'est un super bel endroit pour patiner. Puis après les gros froids qui s'en viennent, là, ça va être extraordinaire.
Ouais, puis je pense qu'il y a de la musique, hein, de la musique agréable, pas trop envahissante ou assourdissante. Mathieu fait signe que oui.
Tous ces endroits-là, on a l'air un petit peu en dehors de la ville, même si on est carrément en ville.
Oui, c'est vrai.
Tout de suite à l'extérieur de Montréal, mais tout de suite à côté, il y a le parc Michel Chartrand à Longueuil, il y a le centre de la nature à Laval, la patinoire de l'île des Moulins à Terrebonne. Ce qui est particulier, celle-là, c'est que près du site où on patine, il y a aussi un sentier de patin de 450 mètres de long. À cet endroit-là. Alors, c'est plusieurs beaux petits endroits tout près de Montréal. Puis à ma prochaine intervention, je vous parle de un peu plus loin.
Expliquez la médecine autrement avec clarté et rigueur, Monique.
Oui, alors c'est une annonce qu'a fait l'Université de Montréal. Du jargon de la médecine, parfois oui, c'est du jargon pour nous, n'est-ce pas?
Absolument.
Pas quand elle est bien expliquée. Alors, il y a un projet étudiant qui s'appelle la médecine réexpliquée. Le savoir médical, grâce à ce projet-là, le savoir médical devient plus clair, plus humain, plus accessible. Alors, il s'agit d'accompagner les étudiantes et les étudiants en médecine dans leur formation, outiller aussi le grand public en matière de santé. C'est la double mission que s'est donnée la médecine réexpliquée, LMR, une initiative qui a été mise sur pied par Fares Jamnouni, qui est un étudiant de deuxième année en médecine à l'Université de Montréal. Alors, comme vous le soupçonnez, Hélène, il y a deux volets. LMR, formons la relève, est diffusé principalement sur Instagram. Ce volet joint une communauté de plus de 1000 étudiantes et étudiants en médecine. Le deuxième volet, celui qui nous intéressera plus, LMR, démystifions la santé. L'équipe traite de thèmes essentiels pour le grand public à travers de courtes capsules sur TikTok. Prévention, santé mentale, maladies chroniques et habitudes de vie. Il y a près de 2000 abonnés qui suivent déjà ce contenu. L'objectif est d'améliorer la culture de la santé au sein de la population dans un environnement numérique qui est saturé d'informations, mais là, on a de l'information de sources sûres.
Wow.
Alors, vous allez sur TikTok, la médecine réexpliquée, vous avez de courtes capsules, justement. On traite de la rougeole, l'ergot au cœur du soin, le vieillissement. Enfin, il y en a une multitude. J'espère que vous y trouverez de bonnes explications.
La médecine réexpliquée, merci. Quelle super initiative. Yvan, on continue avec vous. On va patiner.
Oui, un des beaux souvenirs que je garde de mes expériences en patin, c'est évidemment le canal Rideau, parce que j'ai vécu quelques années dans la région d'Ottawa. Et une des belles expériences qu'on a faites avec les enfants, on est parti de Montréal, on a pris le train, on est allé patiner, on a repris le train, puis on a couché dans notre lit. Ça dormait très bien. Les enfants faisaient pas de bruit quand ils étaient de retour. Donc, canal Rideau, c'est au vert présentement, j'ai vérifié ce matin. Donc, 7 kilomètres de patinage en ligne droite, vous n'avez même pas besoin de savoir virer. Donc, c'est fantastique. Dans la presse de ce matin, puis on en parlait dans l'article que je lisais pour cette intervention-là, la patinoire de la place Duville dans le Vieux-Québec, c'est aussi une patinoire qui est réfrigérée, qui est accessible pendant assez longtemps pendant l'hiver. L'accès au site, c'est gratuit. Puis il y a de la location d'équipement qui est offerte sur place. Vous pouvez aussi aller sur le sentier du patin du domaine Enchanteur à Notre-Dame-du-Mont-Carmel si vous voulez faire plus de route. C'est à peu près à 30 minutes de Trois-Rivières, mais il y a 15 kilomètres de sentiers glacés. C'est comme un labyrinthe. Et finalement, il y a la patinoire du village sur glace à Robertval qui mérite aussi un arrêt. Alors, plusieurs endroits, mais laissez donc la glace prendre pendant la fin de semaine.
ou si vous y allez, bien, portez des bas chauds dans vos patins. Et ça, l'aspect positif, c'est qu'il n'y aura pas un chaud presque.
Oui, en tout cas. Puis faites des petites sorties, une 15-20 minutes, puis visez le chocolat chaud tout de suite après.
Oui, oui. Capsule linguistique en terminant. Monique, il nous reste 45 secondes. Allez-y.
Oui, alors vous m'aviez demandé, Hélène, de faire une recherche sur impacter.
Oui.
Alors, ben, il est critiqué, mais semble-t-il, selon M. Bertrand, qu'il finira probablement par s'imposer dans l'usage. Mais je vous suggère de beaux mots qui remplacent très, très bien impacter. Par exemple, on pourrait dire que le météoroïde a percuté la surface de la Terre au lieu d'impacter. On dira aussi pour certains événements qu'ils peuvent influencer, avoir une incidence, avoir des répercussions sûres, ou encore qu'une décision peut toucher soit des personnes, soit des petites entreprises, ou qui aura des conséquences
oui.
pour ces individus.
Avoir un impact voilà. aussi.
Ben, certainement.
Merci.
Mais il y a d'autres choix.
Merci beaucoup, Monique, pour cette recherche et aussi ces suggestions fort pertinentes et à propos. Alors, je vous souhaite du bon temps et soyez bien au chaud. À la semaine prochaine.
Vous écoutez Au quotidien avec Hélène Denis.
Parfait comme un désert quand la tempête passe sur nos corps. Un grain de beauté où je m'en vais boire. Moi je reste là les yeux ouverts sur un mystère pendant que toi tu dors. Comme un trésor au fond de la mer. Comme un scaphandre au milieu du désert qui voudrait comprendre avant de manquer d'air. Il est midi moins quart, puis la femme déménage est dans le corridor pour briser les mirages. T'es tellement, tellement, tellement belle. Un cadeau de la mort, un envoi du ciel. J'en crois pas mon corps. Pour moi, être une prisonnière en permission, qu'importe le partenaire. Je dois être le vrai portrait de ton père. Daredevil, Nefertiti, des sensations, c'est ta philosophie. D'aller coucher qu'un homme que t'haïs. Pour te dire à ta chum, check le gars avec des lunettes. Moi, te cage un rhum que j'y fixe le squelette. Il est midi moins cinq, puis la femme de ménage. Elle a pu faire rien que compter les. T'es tellement, tellement, tellement belle. Un paquebot géant dans chambre à coucher. Moi, je suis l'océan qui veut toucher. Je l'ai, je t'ai sauvé la vie dans quelques pays, dans une vie antérieure. La fois que je t'ai dit, va pas à ton pays,
quoi d'abord si c'est pas ça? C'est à cause d'un gars qui t'a tendu le cœur. Puis je t'arrivais drette avant que tu meurs. C'est pas pour mon argent, ni pour ma beauté, ni pour mon talent. Tu voulais, tu me tuais. Tapant, puis la femme de ménage a cogné en hurlant. Je veux changer de personnage. T'es tellement, tellement, tellement belle. Je vais bénir la rue. Je vais brûler l'autel. Coudon, tu m'aimes.
Merci Lou-Jean Cormier pour cette version de « Tu m'aimes-tu ».
Oui, c'est dangereux de s'attaquer à des chefs-d'œuvre et le fait de main de maître. Les Oscars, on a maintenant les films, les acteurs, actrices, etc. qui sont en nomination. 98e soirée des Oscars. Sinners, l'épopée vampirique teintée de blues de Ryan Coogler, a dominé les nominations aux Oscars aujourd'hui même, avec 16 citations établissant un record absolu dans l'histoire de la cérémonie. Les votants de l'Académie des arts et sciences du cinéma ont comblé Sinners de nominations, dépassant le record de 14 détenus auparavant par All About Eve, Titanic et La La Land. Hormis l'Oscar du meilleur film, Coogler a été nommé pour le meilleur réalisateur et le meilleur scénario. Et Michael B. Jordan, qui tient un double rôle, a reçu sa première nomination aux Oscars, celle du meilleur acteur. One Battle After Another, la saga révolutionnaire de Paul Thomas Anderson sur la relation père-fille, grand favori avant les nominations, arrive en deuxième position avec 13 nominations. Quatre de ses acteurs, Leonardo DiCaprio, Teyana Taylor, Benicio del Toro et Sean Penn, ont été nommés, tandis que la jeune Chase Infinity n'a pas été retenue dans la catégorie meilleure actrice. Avec ses deux films en tête des nominations, l'Académie a jeté son dévolu sur deux épopées américaines viscérales et d'une originalité saisissante, chacune faisant écho à une période trouble du climat social. Ces deux films sont également des productions de Warner Brothers, en pleine procédure de rachat houleuse par Netflix. Le studio centenaire a connu sa meilleure matinée de nominations aux Oscars. Les 10 films nommés pour l'Oscar du meilleur film sont Bougonia, F1, Frankenstein, Amnette, Marty Supreme, One Battle After Another, The Secret Agent, Sentimental Value, Sinners et Train Dreams. Et la création de l'ONF, La jeune fille qui pleurait des perles, a été retenue dans la catégorie du meilleur court-métrage animé. Bravo! Une autre œuvre québécoise intitulée Perfectly a Strangeness fait partie des finalistes dans la catégorie des courts-métrages documentaire. Alors, il y a tout plein d'autres nouvelles, mais on va suivre ça jusqu'à la soirée des Oscars. Je cherche la date de cette soirée qui s'en vient très bientôt. C'est en février, le 15 mars. Alors, non, ce n'est pas en février, mais plutôt le 15 mars au Dolby Theatre de Los Angeles. Et la cérémonie sera diffusée en direct sur ABC et Hulu. Thank you. C'est l'heure de la chronique Psychologie sociale avec Roxane de la Sablonnière. Roxane qui est professeure titulaire au département de psychologie de l'Université de Montréal, directrice du laboratoire sur les changements sociaux, l'adaptation et le bien-être et cofondatrice du projet Intercom. Ça va bien, Roxane?
Oui, ça va bien, vous?
Oui, merci. Alors aujourd'hui, votre sujet, utiliser l'art, ART, pour avoir des conversations entourant les changements sociaux dramatiques. C'est une chronique qui a été préparée en collaboration avec Marjolaine Rivet-Beauregard, candidate au doctorat en recherche en santé mentale à l'Université McGill.
Exactement. Donc, au cours des dernières années, nous avons été collectivement confrontés à plusieurs changements sociaux dramatiques qui ont été associés à des impacts psychologiques importants, des impacts sociaux aussi. On peut facilement penser à la pandémie durant laquelle on a été confinés, mis en quarantaine, au rythme des cycles de des infections, une période qui a été remplie d'incertitudes et de deuils qui laissent aujourd'hui encore des traces. Plusieurs aimeraient enfermer cette expérience difficile dans une boîte, loin de l'esprit, loin du danger. Mais cependant, tenir des conversations collectives pourrait peut-être être un moyen important pour se rétablir, apprendre et se préparer individuellement et collectivement à de futures crises. Parce qu'on parle de ça souvent, hein, aujourd'hui, de futures crises, ouais. C'est dans les médias constamment.
Comment on peut avoir une réflexion collective sur ces crises sans pour autant brusquer ceux et celles qui ne souhaitent pas en parler?
Bien, c'est une question qu'on s'est beaucoup posée avec Marjolaine, justement, puis une équipe de recherche. Puis c'est pour ça que dans cette chronique, je vous présente l'un des moyens. Évidemment, ce n'est pas le seul moyen, mais c'est un des moyens. Donc, les musées et les expositions artistiques. Selon la recherche, ces espaces auraient la possibilité de promouvoir la guérison psychologique, la connectivité sociale et la régulation émotionnelle. Par exemple, en Chine, il y a 27 visiteurs et visiteuses d'un musée d'exposition numérique, le China Grand Canal Museum, qui ont pris part à des entrevues afin d'identifier différentes dimensions du bien-être psychologique. Donc, ce musée numérique aurait agi comme catalyseur du bien-être, entre autres dans l'engagement émotionnel à travers les expositions, l'immersion sensorielle, l'éloignement du stress au quotidien, l'inspiration aussi qui est générée par les expositions, puis finalement, une meilleure compréhension des expériences d'autrui. Il y a un des participants qui rapporte, par exemple, avoir beaucoup de stress dans sa vie, puis qui a dit « ben venir ici me fait sentir plus ouvert d'esprit et me permet d'élargir mes horizons. C'est une forme de relaxation ». En plus de favoriser le bien-être, ces initiatives peuvent s'avérer thérapeutiques puis sont particulièrement efficaces lorsque les besoins des communautés visées sont bien identifiés. Par exemple, il y a un groupe de jeunes adultes qui vivent avec des difficultés de santé mentale sévères qui a suivi un programme de 18 semaines qui incluait des visites thématiques hebdomadaires, donc à chaque semaine, accompagnées par des art-thérapeutes dans un musée d'histoire et d'artefacts. Donc, à la suite de chacune de ces visites, les participants prenaient part à une session de création artistique puis ils partageaient leur travail. Donc, les jeunes adultes ont rapporté que le programme leur a permis de faire des liens avec leurs expériences et leurs émotions, de se sentir plus connectés avec le monde à l'extérieur des services en santé mentale reçus. Finalement, il y a un autre programme qui a été mené dans un musée d'art public au Royaume-Uni qui a invité un groupe de 6 personnes qui ont vécu une expérience importante de psychose, donc à participer à 4 sessions hebdomadaires. Puis pendant ces sessions, il y avait un ergothérapeute qui les accompagnait dans l'exploration de l'exposition, des œuvres du musée, dans l'objectif de créer des liens avec leur propre expérience. Donc, les résultats ont montré que ces visites ont aidé à changer les stéréotypes négatifs liés à leur diagnostic. C'est quand même un diagnostic qui est difficile à avoir, comme l'idée que ce diagnostic est permanent ou que l'identité d'une personne est liée à ce diagnostic. Donc, en plus, les personnes participantes ont suggéré que le programme leur a permis de prendre un pas de plus vers le rétablissement, puis il y a même un participant qui a dit « une autre étape de fête dans un long voyage ».
Wow, tout ça est positif. Est-ce que l'efficacité d'exposition de visite de musée a déjà été montrée dans le contexte de la pandémie?
Ça a été montré. Nous avons trouvé très peu d'études sur ça, mais il y a quand même des études qui ont été faites. Il y en a une, entre autres, qui s'est avérée bénéfique qui a montré que c'était bénéfique sur le plan psychosocial. Par exemple, avec le mouvement vers les technologies digitales pendant la pandémie, il y a un groupe de recherche qui a conduit une étude pilote avec 24 participants qui ont répondu à un questionnaire avant et après leur visite du musée pour mieux comprendre leur engagement et aussi leur bien-être. Les résultats de ce projet montrent qu'il y a eu une amélioration du bien-être. Par exemple, les personnes qui participaient à la recherche rapporte plus d'émotions positives, comme se sentir inspiré, et moins d'émotions négatives, comme la nervosité, après la visite du musée comparativement à avant. Par contre, Hélène, c'est important de noter que les études que je vous ai présentées ont toutes été faites avec des petits groupes de participants qu'on appelle des groupes pilotes, puis qui utilisent principalement des méthodologies qualitatives et ces groupes-là, souvent, n'ont pas été comparés avec des groupes contrôle. Donc, pour qu'une étude soit vraiment considérée comme étant solide, il doit y avoir un groupe expérimental, par exemple, les participants qui auraient visité un musée, qui serait comparé avec un groupe contrôle dont les participants n'auraient pas visité le musée.
Ah, c'est ça, un groupe contrôle.
Exactement. Donc, ils pourraient avoir fait la visite d'une école, par exemple, ou rien fait. Mm-hmm. Donc, on les compare parce qu'on veut s'assurer que le changement qu'on observe, dans ce cas-ci, par exemple, les émotions, bien, que ce soit vraiment lié à la visite du musée. Donc, nos connaissances sur l'efficacité de ces initiatives sont limitées par des données qui sont, à ce jour, principalement exploratoires. Mais tout de même, dans des contextes de changements sociaux dramatiques, la visite d'expositions artistiques, comme dans un musée, pourrait permettre aux visiteurs d'exprimer, de traiter les émotions liées à ces événements. L'exploration du potentiel de ces visites et expositions artistiques en lien avec la pandémie doit quand même se poursuivre sur le plan de la recherche.
Et Roxane, est-ce qu'il y a des initiatives dans ce sens-là là, au Québec?
Oui, bien en fait, je voulais vous parler d'une initiative, puis c'est celle de Marjolaine, là, l'étudiante avec qui j'ai écrit cette chronique, et d'une équipe de recherche aussi qui s'est intéressée justement aux discussions qu'on pourrait y avoir dans des contextes de crise, puis au rôle de l'art dans ces discussions-là. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est associé au PréCrisa, qui est un réseau de prévention des crises en santé, et à une artiste aussi, Cécilia Torres, pour créer un projet appelé « Trajet collectif ». Puis pour ce projet, Cécilia a créé des œuvres inspirées de données scientifiques sur le bien-être, par exemple, qui seront exposés à la Maison du développement durable le 6 et le 7 février, aux côtés de résultats de recherche qui proviennent d'histoires en lien avec la santé mentale partagées pendant la pandémie. Donc, l'événement a pour objectif de se rassembler, de prendre un moment ensemble pour réfléchir sur la pandémie, peut-être de la sortir un petit peu de la boîte là, dont je vous parlais, et de discuter de notre santé mentale et trouver des propositions pour améliorer la santé mentale dans un contexte de grand changement. Donc, notre objectif est de créer un environnement qui est sécuritaire, dans lequel la communauté peut avoir des discussions, des réflexions sur la pandémie. Il y aura évidemment des sentinelles sur place, donc des gens qui ont reçu une formation dans le domaine de la relation d'aide pour aider ceux et celles qui pourraient en ressentir le besoin de parler. Donc, je souhaite donc prendre un moment pour vous inviter formellement à vous joindre à nous pour se rassembler, réfléchir ensemble. Moi, j'y serai le vendredi le 6 et Marjolaine va y être les deux journées. Donc, ça nous ferait vraiment plaisir de rencontrer les auditeurs, les éditrices de l'émission. Puis cet espace nous rappelle que l'on n'était pas seul dans le contexte de changement dans la pandémie et que, aussi, nous pouvons réfléchir ensemble.
Se cultiver, se faire du bien, joindre l'agréable à l'agréable. Pourquoi pas? C'est à la Maison durable, oui. Si je ne m'abuse, c'est sur Sainte-Catherine.
Dans le centre-ville, près du métro Saint-Laurent, si je ne me trompe pas.
Oui. Bel endroit. Merci beaucoup, Roxane. L'information va être disponible sur le site web de l'émission. L'événement est gratuit et se tient à Montréal, donc à cette maison, les 6 et 7 février. Pour vous rencontrer, Roxane, vous y serez le 6?
Oui, exactement.
Parfait. Et pour rencontrer votre collègue avec laquelle vous avez créer cette chronique, elle y sera, elle, les deux jours. Ce que je retiens, c'est que se préparer aux crises futures passe aussi par notre capacité à revenir sur nos propres expériences de manière créative et en tant que société. L'art, c'est fantastique. Merci. Merci, Roxane de la Sablanière.
Merci.
À la prochaine.
Merci, Hélène.
Let them fires burn inside my head. May the rivers flow down my veins. Let the river slow down my pain. May the tide be high. Meet me by the river. Come, let's heal together. Meet me by the river, let's be long. Meet me by the river, let's heal together. I'll say, meet me by the river, let's be long. Let's be long. All you need to know, all the love on this was made for you, you. All the love on this earth meant for you, you. All the love on this earth for you, you. All the love on this earth for you, you. Meet me by the river, come let's heal together. Meet me by the river, let be long. The river together. Oh.
Dominique Fils-Aimé et la chanson « The River ».
Quel talent qu'elle a, cette fille, qui sera en spectacle, il y a plusieurs dates, là, je suis sur son site officiel, à la salle Pauline Julien, c'est vendredi, demain, à Sainte-Geneviève, et à la Petite Église, samedi 24 janvier, à Saint-Eustache. Ça vaut la peine de sortir de sa chaumière pour aller se faire réchauffer par cette voix magnifique. La ville de Latuc a procédé samedi à l'inauguration officielle d'un tandem Flex, une chaise adaptée sur ski permettant des personnes à mobilité réduite ou vivant avec un handicap de découvrir le ski alpin au centre de ski local. C'est un texte de Fatoumata Dapa, réunie devant le chalet de ski du côté montagne. Élus, employés municipaux, bénévoles et citoyens ont assisté à la présentation officielle du tandem Flex, un équipement de ski adapté désormais accessible à la population latucoise. L'inauguration s'est déroulée en trois temps. L'explication du fonctionnement, la présentation des bénévoles accrédités, puis une montée suivie d'une descente. Selon la directrice du service du loisir, de la culture et de la vie communautaire de la ville de Latuc, Estelle Paulus, cet équipement vise à élargir l'accès aux activités hivernales. Il s'adresse à toute personne qui n'a pas la possibilité d'être en ski. Ça peut être une personne à mobilité réduite, mais aussi un aîné qui n'a jamais eu l'occasion d'en faire. Qui a toujours voulu essayer. Et lors de l'inauguration, Laurence Melançon est devenue la première utilisatrice officielle du tandem Flex à Latuc. C'est tout pour aujourd'hui. Ça a passé vite, vite, vite. Merci Mathieu Tessier à la mise en onde. Ici Hélène Denis qui vous souhaite un beau week-end malgré le gros froid. On se retrouve mardi. Denis Martin sera là lundi.